aux grenouilles.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grenouille. Une émission aujourd'hui consacrée à la sagesse avec le projet de deux femmes, Barbara Cassin, philologue et philosophe, et Danielle Vosny, experte en culture et patrimoine, deux baroudeuses, deux amoureuses des différences et des autres. Leur idée, faire renaître des maisons de la sagesse, dont la première maison de la sagesse pourrait s'implanter à Marseille, en bonne voie, pour tenter de conjurer cette malédiction de Babel et que Marseille devienne peut-être un point fort pour ces maisons de la sagesse. Il se trouve que ce jeudi soir est organisée une première fête des Maisons de la Sagesse à la Friche Belle de Mai de 18h30 à 20h30. Une fête qui vous convie à la conférence, à la déambulation, à la performance, pour comprendre et inventer ensemble les trois premiers projets de la Maison de la Sagesse à Marseille. Un glossaire de la bureaucratie française à l'usage des migrants, des banques culturelles et des patrimoines migrateurs et un dictionnaire des intraduisibles des trois monothéismes. Barbara Cassin, bonjour.
Bonjour.
On peut vous présenter alors comme helléniste, philologue et philosophe, spécialiste de philosophie grecque, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez également endossé le costume de commissaire d'exposition et imaginé l'exposition « Après Babel, traduire » au MUCEM l'année dernière, tout en vous attaquant en parallèle à un monumental dictionnaire sur les trois monothéismes. Mais vous avez aussi publié plusieurs ouvrages, dont « L'éloge de la traduction » chez Fayard en 2016 et « Le dictionnaire des intraduisibles » en 2004 chez Seuil, lui-même en cours de traduction. Vos recherches vous ont mené de Homère à Heidegger en passant par la psychanalyse, sans en parler en plus des nombreux programmes culturels que vous coordonnez. Et pour finir, vous êtes aussi chevalier de la Légion d'honneur et vous avez reçu en 2013 le Grand Prix de philosophie de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Et donc, vous dites souvent que vous travaillez sur ce que peuvent les mots.
Oui, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait. ça me suffit.
Soyez la bienvenue sur Radio Grenouille. Danielle Vosny, bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Soyez aussi la bienvenue. Donc vous, après avoir enseigné les lettres classiques, vous avez été chargée de différentes missions culturelles, aussi bien en tant qu'attachée culturelle, donc directrice d'établissements culturels un peu partout autour du monde, en Bulgarie, en Égypte, en Inde par exemple. Et puis vous avez été ensuite responsable du pôle patrimoine mondial au sein du ministère des Affaires étrangères entre 2009 et 2013. Et puis vous avez coécrit avec Barbara Cassin les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne aux éditions d'Hémopolis. Soyez donc tous les bienvenus. Pour ce projet, vous vous êtes très très bien entourés, pour ce projet de Maison de la Sagesse. Est-ce que vous nous présenteriez les gens qui vous entourent?
Ah oui, avec joie. D'abord, Gagny Sissoukou, je suis la table. Hein. Gagny Sissoukou, avec qui on travaille parce qu'il est bénéficiaire, on va dire comme ça, d'un crédit de l'ADI. Alors, est-ce que, Gagny, tu peux nous dire ce que ça veut dire, ADI?
L'agence qui prête des crédits pour les gens qui... Je pense c'est parce que je suis allé dans différentes banques pour avoir des crédits. Comme j'ai une carte de séjour, et c'était pas facile de trouver des crédits. En fait, avec l'ADI, j'ai eu un prêt de 3000 euros pour commencer mon projet.
Pourquoi est-ce que ça nous intéresse dans les Maisons de la Sagesse? C'est parce que c'est un lieu qui donc distribue des microcrédits à des projets qui lui paraissent intéressants, des projets qui fabriquent, disons, un monde commun. Gagny va ouvrir un restaurant. Nous, on a décidé avec Générique Vapeur, ça va être ma prochaine présentation, Pierre Berthelot qui est là avec nous, on a décidé d'essayer de montrer des parcours de vie à travers des objets et des parcours de vie liés à, en même temps, des, on va dire un vilain mot, parce que ce n'est pas un mot qui nous intéresse beaucoup, insertion.
Voilà. Il est moins vilain que intégration.
Bon, alors, des insertions grâce à des microcrédits. Donc, valoriser avec des objets et des récits qui permettent de comprendre une histoire. Donc, faire aussi bouger l'idée de musée, ça ne nous ferait pas de mal. L'idée de muséographie et mettre tout ça dans la vie. Donc ça, c'est un des projets des Maisons de la Sagesse. Et si je continue, ce projet-là, on le mène et on le mène et on va le montrer ce soir avec Générique Vapeur. D'autre part, on travaille dans la rue aussi. On travaille partout où on peut. C'est ce que font les philosophes publics.
Tout à fait. On a rencontré, nous, Barbara, on s'est rencontrés lors de l'exposition après Babel.
Après Babel, virgule, traduire.
Et nous avons été tout à fait séduits par ce projet. On travaille donc dans la rue avec les philosophes publics autour des roues de la philosophie, sur la Canebière notamment, et puis à tous les endroits où on n'a pas l'habitude de philosopher. Et on trouvait que cet espace pouvait être un espace de plus où on déplaçait les représentations, où on parlait ensemble de vécus différents, où on faisait travailler les mots. Et ça nous intéressait pour continuer justement cette approche philosophique-là qu'on peut mener globalement et avec tous ceux qui ont envie de venir parler avec nous.
Et ceux qui veulent vous écouter peuvent le faire sur Radio Grenouille chaque deuxième dimanche du mois à 10h. Alors, vous l'avez dit, ce projet de Maison de la Sagesse fait suite à l'exposition Après Babel Traduire, donc au MUCEM, qui a eu lieu au MUCEM l'année dernière et qui a attiré quand même plus de 60 000 visiteurs. Donc, ça, je pense, eu un sacré impact. Vous pourrez peut-être nous en dire deux mots. Mais plus largement, de quel désir ce projet de Maison de la Sagesse est-ce qu'il émerge? De quelle idée?
De l'idée de traduction. Et tout à l'heure, vous disiez la malédiction de Babel. Mais l'idée, c'est que Babel, ça serait plutôt une chance.
Et, oui.
Et que la diversité des langues, eh bien, c'est une manière, enfin, c'est le modèle même de la diversité. Il y a des langues, il n'y a pas le langage. Moi, je n'ai jamais rencontré le langage, je n'ai jamais rencontré que des langues. Et la traduction, c'est un savoir-faire avec les différences. C'est comme ça que, à mon avis, c'est un modèle politique par excellence. C'est ça dont nous avons tous besoin. Savoir-faire avec les différences et se cogner les difficultés, les affronter, les intraduisibles, c'est bon, des symptômes de différence. Et il ne faut pas les mettre sous un tapis en parlant globish, global English, et en faisant que de la communication avec des mots-clés. Non, il faut réfléchir à ça et travailler avec ça.
Dans quel sens est-ce qu'on doit comprendre la sagesse ici? De quelle sagesse parle-t-on? Est-ce qu'il y en a plusieurs? En tout cas, pour vous, personnellement, de quelle sagesse on parle là?
Pour moi, la sagesse, c'est un savoir-faire avec les différences, justement. C'est-à-dire que ça a vraiment à voir avec la traduction. Ça a à voir avec le fait de ne pas croire qu'on est possesseur de l'universel. C'est ça. Vous parliez du dernier livre que j'ai fait qui s'appelle « Éloge de la traduction ». Le sous-titre, c'est « Compliquer l'universel ».
Tout à fait.
Déjà, pour moi, ça, c'est un bout de la sagesse.
Daniel Vosny.
Je partage ce point de vue aussi. Et c'est pour ça que la traduction en est un des outils essentiels. C'est parce que ça nous permet de montrer à travers la traduction la différence des cultures. Et aussi les zones de commun. Il y a la mise en avant des différences, mais il y a aussi la découverte de passerelles qui vont conditionner des projets communs, des choses à faire ensemble. Donc c'est un peu la même chose que ce que disait Barbara.
Gani, pour vous, la sagesse, c'est quoi?
Dans mon cas, je dirais que la sagesse est des faits que je suis avec des gens dans le milieu de la culture que je cuisine, pour communiquer, je les mets dans les mots sagesse pour moi.
notre prof de philo préférée, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Moi, ce que j'aime bien dans cette idée de sagesse, c'est que ce soit un relais et un accueil possible de la parole aussi, de la parole de l'autre, de la parole échangée, de la parole qui se construit ensemble. Parce que je pense qu'effectivement, c'est un lieu où on peut discuter ensemble de ce que l'on met derrière des mots comme hospitalité, comme accueil, comme prendre soin, comme habiter. Et tous ces mots-là s'enrichissent des différences de langue. Et ces différences de langue-là, on le trouve dans la sagesse.
Moi, je serais plutôt dans un rapport où j'apprivoise la différence et comment nous, femmes et hommes de théâtre, on peut traduire ces différences. Nous, on s'appelle générique vapeur, mais on s'appelle aussi trafic d'acteurs et d'engins. C'est-à-dire que ce que j'aime bien, c'est comment apprivoiser les engins pour pouvoir les investir et comment les traduire à travers des mots ou à travers des gestes. Et on a une spécialité avec Cathy, c'est qu'on adore l'agora, donc on aime aussi transmettre dans un grand nombre et être entendu. Enfin, on espère.
Alors, je vous propose que nous remontions un petit peu le temps ensemble, là, de manière à nous offrir aussi une perspective historique, puisque les maisons de la sagesse existent, ont existé depuis longtemps. Il se trouve que la première maison de la sagesse a vu le jour en 832 à Bagdad, et qu'elle serait née d'ailleurs d'un rêve entre le calife qui les a imaginées et Aristote.
Le calife Al-Mamoun, au 9e, se rend compte qu'il est absolument indispensable pour le développement de son pays et pour asseoir sa politique d'aller chercher des savants et de développer les sciences. Donc il va chercher des savants qui sont en Iran, qui sont en Perse à l'époque, qui sont en Chine et qui sont en Inde, et commence un immense travail de traduction et de course aux manuscrits. Et il commence à travailler à partir des textes grecs qu'il commence à traduire, et ce sont ces traductions incessantes des textes grecs qui, petit à petit, vont aider des savants, des mathématiciens, des physiciens à avancer, ou des médecins. Il y avait aussi ces maisons de la sagesse, étaient des lieux de séjour importants, avec à côté un observatoire, un hôpital, et c'était de la science en action. C'était pas seulement des spéculations de type intellectuel. Voilà, et elles ont essaimé dans tout le monde arabe, méditerranéen, et la langue internationale de l'époque était l'arabe, en fait. Et cette activité de traduction, c'est elle qui a produit les sciences, y compris les sciences occidentales, qui ont été imprégnées de tous ces travaux, et les Grecs nous sont arrivés en grande partie par le biais des maisons de la sagesse.
Donc il n'est pas tout à fait fou de retrouver la traduction au centre de ce projet de maison de la sagesse version 2018.
Donc. Oui. C'est même l'un des points d'ancrage, c'est le point d'ancrage avec les maisons de la sagesse dans tous les projets qu'on a choisis.
Alors, quelle place est-ce qu'elle occuperait, cette maison de la sagesse version donc 2018, à Marseille? Comment est-ce qu'elle s'ancrerait et se déploierait dans la cité?
Ben, on va savoir ça ce soir. Parce que il n'est pas question qu'on implante un machin qui serait comme un corps étranger
ou un ovni.
Il est la seule réalité qu'elle aura, cette maison de la sagesse marseillaise, c'est d'une part d'appartenir à un grand réseau, parce qu'on est encore plus fou que ça. Hein, Marseille, ça nous, c'est très bien, mais bon, Aubervilliers, c'est pas mal non plus. Et puis, bon, voilà, on va faire un grand réseau de maisons de la sagesse.
Oui, et Bagdad.
Bagdad. Oui. Bon, Fès. Bon. Ces maisons de la sagesse, ce sont des actions, c'est-à-dire que le lieu peut être très réel. En l'occurrence, là, ce soir, nous sommes à la Friche Belle de Mai. Il se peut que nous soyons à un autre moment ailleurs. Il est à la fois très réel et très virtuel. Donc voilà, et on est dans la rue avec Générique Vapeur, peut-être aussi. On est dans la rue avec les philosophes publics. On est dans le restaurant de Gagny. Bon, on est dans les classes aussi, parce que c'est très important que les enfants et les jeunes et les lycéens soient présents. Et ça sera le cas. Et c'est le cas aussi grâce au rectorat, par exemple, grâce au lycée, grâce au collège. On travaille avec les théâtres. Bon, voilà. Donc, la Maison de la Sagesse, elle est à la fois réelle et virtuelle. Elle est un peu partout et un peu tout le temps et avec des moments forts.
Mais par exemple, à Marseille, est-ce qu'il y a un lieu que vous auriez identifié pour avoir une maison avec un toit au sens très, très concret du terme ? Ou pas encore ?
Oh, on vous attend. Oui, un peu. C'est-à-dire qu'on se dit, non, pas un lieu, mais des lieux. Des lieux. On pourrait très bien avoir une antenne, un bureau à la Vieille Charité. On est en train de voir si c'est faisable. On pourrait exister, pourquoi pas, au Mucem. On pourrait exister, pourquoi pas, à la Friche Belle de Mai. On pourrait exister...
À la Cité des Arts de la Rue.
Voilà, à la Cité des Arts de la Rue.
Dans le restaurant de Gagny.
Dans le restaurant de Gagny.
Ok, donc vous avez quand même plusieurs points de chute et plusieurs, en tout cas, endroits qui vous accueillent en leur sein. Donc c'est plutôt positif. Et je me suis aussi demandé pourquoi Marseille. Alors au-delà du fait qu'il y ait eu l'exposition, bien sûr, au Mucem, Marseille, c'est une ville monde plutôt très ouverte sur à la fois la Méditerranée, donc l'Afrique, mais aussi l'Europe. Et puis avec ce port-là, c'est le monde entier qui converge et qui irrigue cette ville. Et puis, c'est une ville où on compte presque 80 langues, en fait.
Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment l'endroit. De même que c'était l'endroit, pour moi, où faire cette exposition après Babel, c'est l'endroit où faire une Maison de la Sagesse. Mais on en a un autre dans l'idée, avec lequel un autre endroit, un autre lieu, comme ça, composé de plusieurs lieux auxquels on commence à travailler, c'est Aubervilliers.
Eh oui.
Aubervilliers, c'est Marseille, d'une certaine manière, avec aussi des... J'oubliais, par exemple, comme lieu à Marseille, Limeira. On vient de terminer un séminaire sur justement les trois monothéismes, c'est-à-dire la troisième vection de ces maisons de la sagesse.
Et on va en parler tout à l'heure. Je vous propose une petite escapade en musique avec Baba Sissoko, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, Gani, et son titre Doni Doni.
Radio Grenouille.
Vous écoutez Radio Grenouille, une émission aujourd'hui consacrée aux Maisons de la Sagesse qui présentent ce soir leur projet à la Friche Belle de Mai entre 18h30 et 20h30. Un très très beau projet d'envergure pour lequel nous sommes là aujourd'hui avec Barbara Cassin, Daniel Vosny, Gany Sissoko, les philosophes publics, donc Morgane, et Pierre Berthelot de Générique Vapeur. Ce projet, donc, il se divise, et disons qu'il se compose plutôt de trois axes, si on veut. Et vous nous parliez tout à l'heure donc d'un glossaire qui permettrait aux nouveaux arrivants de s'emparer un petit peu du vocabulaire administratif plutôt compliqué quand on arrive en France donc et qu'on doit remplir des formulaires, des papiers, faire des demandes.
Je rappelle qu'il s'agit de la phase accueil, accueil des étrangers. En France, il est destiné donc à ces étrangers qui arrivent, mais il est destiné aussi à tous les agents des services administratifs français qui ont à participer à l'accueil des étrangers en France. Donc que ce soit les services d'état civil, de la police, enfin tous ces gens qui interviennent et qui conditionnent la qualité de l'accueil que la France peut donner aux étrangers. Alors quand un étranger arrive à Paris, dans un aéroport, peut-être pas forcément à Paris, la première chose c'est qui es-tu ? Donc on lui demande son nom, son prénom. Déjà, première difficulté selon les pays d'où il vient. Il y a un certain nombre de pays où nom et prénom, ça ne fonctionne pas comme chez nous. Donc dans tous les pays du monde arabe, ça peut être très compliqué. Aux Comores, on voit bien la difficulté, il y a eu le comité de révision de l'état civil qui n'en finit pas d'essayer de définir nom et prénom. Bon, il y a cela. On leur demande ensuite, j'imagine aussi, tu es né quand ? Bon, si on demande ça à un Iranien, l'année n'est pas la même que la nôtre, puisque la fin de l'année, c'est le 21 mars. Donc déjà, il est obligé de faire un calcul savant pour dire quel âge il a et quand il est né, parce que ce n'est pas les mêmes noms de mois, enfin rien n'est pareil. Ensuite, ce qu'évoquait Barbara, le statut familial, enfin bon, voilà. Donc tout cela doit se travailler. Ces mots ont déjà été traduits, ils existent. L'OFPRA a des formulaires où ces mots sont traduits. Mais ils sont traduits, mais ils ne mettent pas en avant tout ce qui est différent, tout ce qui est culturel. Et on est toujours dans le presque ou le pas tout à fait. C'est le mot qui n'est pas exactement celui qui dit ce que moi je suis. Voilà. Donc nous, on a envie de faire finalement ce glossaire sera plus un glossaire de différence des cultures pour qu'on comprenne bien pourquoi c'est difficile pour la personne qui arrive de répondre immédiatement à toutes ces questions. Hein, quand on demande aussi ethnie, par exemple, on se rend compte dans les formulaires de l'OFPRA que les gens répondent soit par leur religion, très souvent ils répondent religion, ou ils répondent caste, ou ils répondent mais pas forcément. Bon, c'est compliqué l'ethnie, on en a parlé tout à l'heure, on a eu dans le séminaire un long dégagement sur l'étymologie d'ethnie et les multiples sens de ce mot. Et on voudrait aussi, alors sur la méthode de travail, on va travailler avec des gens qui sont des passeurs, dont souvent qui sont des professeurs, par exemple, et qui savent expliquer les différences de culture, avec des locuteurs de ces langues, et surtout avec les associations de gens de ces pays. Hein, on a commencé, je prends un exemple concret, on a commencé avec le Bengali du Bangladesh. Donc nous travaillons avec les associations de Bengali qui sont capables aussi de surveiller un petit peu ce qui se passe et de nous dire « votre traduction, ça marche » ou « votre traduction, ça ne marche pas ». Ou c'est pas ça.
En fait, on attend toujours un c'est pas ça. Voilà. Hein, parce que c'est ça qui nous intéresse.
Mais oui.
On va pas donner une meilleure traduction, on va pas donner la bonne traduction. Mmh. Mais on va essayer de comprendre quels sont les décalages et qu'est-ce qu'on peut en tirer.
Gany Sissoko, vous, quand vous êtes arrivé en France, donc vous êtes malien, vous étiez forgeron, et puis vous êtes devenu restaurateur. Donc c'est une histoire que vous nous raconterez, si vous voulez bien, tout à l'heure. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé en France? Et quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez été confronté aussi à ces difficultés administratives
Moi, je dirais même aujourd'hui. Hein, même aujourd'hui, je passe ça tous les jours. Mais bon, c'est exact, c'est ce qui me donne même la force pour... pour aller au bout, ce que je veux faire. Et moi, je suis né forgeron, parce que toute ma famille, de génération à génération, on est tous forgerons et puis bijoutiers. Ça dépend, en tout cas, on est dans ce métier-là. Et moi, je me suis retrouvé à Bamako, parce que à la base, je ne viens pas de Bamako, de capitale. Je viens d'un petit village.
Comment il s'appelle ?
Djagibé, Nioro du Sahel. Et je me suis retrouvé à Bamako après le décès de mon père. Et à 95, bon, j'étais tout seul. Après, je travaillais pour une dame qui faisait des, comment on dit, c'est nous les vendes sauvages. Mm-hmm. Qui faisait des repas pour même les universités, en fait, les facs qui sont sur Bamako. J'allais vendre, à la fin, je préparais moi-même. Et la cuisine s'est venue de là. Et après, en 2006, j'ai croisé quelqu'un. Elle m'a invité d'aller dans un restaurant français libanais. C'est parce que c'est les Libanais qui font ça en Afrique, surtout en Afrique et noire. J'ai goûté des pizzas. C'était les pizzas RN. Je ne mange pas de porc, c'était les pizzas RN, champignons, fromage. Et j'ai goûté, j'ai dit, ben, ça, je pense que je vais changer de métier complètement. On n'a pas de champignons. J'ai dit, bon, ça ne vaut pas la peine. Il faut que j'arrive à trouver un truc. C'est là que j'essaie de vanter des pizzas au manioc et bananes, en fait. Alors moi, mon histoire, c'est parti de là. Et après, j'ai eu la chance de croiser un compagnon qui m'a fait venir pour son cuisiner sur le plateau avec son spectacle. Et depuis ça, voilà. Et quand je suis arrivé, il y a un bar à Marseille que je vais les remercier, en fait, parce que quand je suis venu, ils m'ont donné une carte blanche et c'est parti de là, en fait, depuis ça. Voilà. Bon, je suis dans la cuisine et je suis traiteur sur Marseille.
Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez dû remplir ces formulaires-là et tous ces papiers? C'était quoi le plus dur? C'était quoi le plus compliqué?
Moi, le plus compliqué, c'était déjà d'arriver ici dans l'aéroport, qui était énorme. Et puis face de police et les douanes, parce que d'abord c'est les deux endroits différents. En fait, t'as des papiers à remplir comme il disait, en fait, nous, moi, quand on me dit ton nom, moi je dis Gagné, mais en fait il fallait 18 secondes. Ah. Là, on peut faire une erreur sur ça seulement, je pense que tu peux te retrouver dans la vie encore. Alors, jusqu'à maintenant, ça, moi, je... En fait, c'est un truc qu'on peut jamais... En tant qu'étranger, on peut jamais maîtriser, en fait, parce que moi, je peux pas rentrer dans les détails sur ça, parce qu'on ne peut pas maîtriser, en fait. Chaque fois, là, moi, au préfecture, souvent, on me dit d'aller là, voilà. Bon, ça, pour le moment, j'ai des papiers, mais bon, chaque fois, je comprends sur ça, je ne peux pas dire l'explication, en fait. C'est compliqué. Ouais.
J'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus? Et surtout, pourquoi ne me cherche-t-il pas? Je trouve ça un grand pas sympa. Je suis un bébé éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? J'ai bien peur qu'il se soit suivi dans le précipice, au fond des profondis. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Je me sens tout errata. Je suis un bébé éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? Parce que je ne me sens pas chez moi dans ces jungles inconnues. À ma vue, tous sont encourus. Personne ne sait d'où je suis. Je suis un mal blanchi, impoli. Je suis un bébé éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? Quelle tribu voudrait m'adopter? Je suis un égaré, sans carte d'identité. Ok, je me plierai à vos coutumes. Ok, si vous acceptez mon volume, je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher?
Alors, il y a une deuxième étape, un deuxième axe dans ce projet de Maison de la Sagesse, c'est celui d'une banque culturelle, d'une banque musée, un peu sur le modèle de ce qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali d'ailleurs. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire qu'on dépose un objet, qu'il n'y a pas du tout la dimension marchande dans l'esprit de ce projet-là, mais ça permet à la fois de raconter une histoire, de permettre à des personnes de développer leur activité.
Dans un village, il y en a 4, hein, banques culturelles au Mali pour l'instant. Donc, j'ai envie de monter une petite entreprise génératrice de revenus, comme on dit là-bas. Et j'ai besoin d'un peu d'argent. Donc, je vais apporter dans un petit musée un objet de ma famille, qui peut être un pot, un masque, un bracelet, n'importe quoi. Et je vais le déposer dans ce musée et déposer aussi son histoire. Donc et cet objet, il va être enregistré selon des normes internationales. Ce qui veut dire que s'il est volé, on voit pourquoi c'est utile en ce moment, et au Mali, ça a été utile en 2012... cet objet est susceptible d'être retrouvé par les polices internationales. Il est de facto protégé, même s'il reste la propriété de la personne qui l'a déposé. En échange de ce dépôt, on va me donner un peu d'argent pour monter ma petite entreprise. Et à côté, il y a un petit centre de formation où on va m'aider à faire de la comptabilité, à essayer de voir comment je peux en vendre davantage, comment je vais me reconvertir. Je pense à des femmes, parce qu'il y en a une aussi au Bénin, qui faisait des fours en terre pour consommer moins de bois. Mais une fois qu'elles vont avoir vendu les fours en terre au village alentour, il va falloir inventer autre chose. Donc ça ne marchera pas. Voilà, et on se rend compte que ce petit musée, les écoles viennent et toutes les communautés viennent voir. Or, ce sont des gens qui sont d'origines différentes et qui souvent ne s'aiment pas. Et quand ils sont au musée pour voir les objets, ils se parlent. Donc il y a là, c'est un lieu, c'est un peu la potion magique d'Astérix en fait, ces petits musées. Alors voilà. Donc on se dit qu'il y a, à partir de cet exemple-là, quelque chose à inventer ici, sur ce modèle-là, l'adapter à la France. C'est un transfert sud-nord, ça change.
Et vous en parliez donc tout à l'heure, pour l'adapter justement à la France, vous avez sollicité l'ADI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique. Juste pour être clair, donc l'ADI délivre des microcrédits. Qu'est-ce qu'un microcrédit? Juste pour être super clair. Comment ça marche?
Gagné, on lui a donné 3000 euros, dit-il, pour lancer son entreprise.
Avec son restaurant.
Voilà, son restaurant, avec un taux de remboursement qui est quand même très bas.
Hein, qui est très haut.
Ou très haut. Lui, il dit très haut, très mais haut. C'est très bas par rapport aux banques.
Par rapport aux banques.
Non, parce qu'à la banque, je dirais tout le temps merci à l'ADI, hein, parce que c'est même pas des taux, en fait, c'est des faits qui nous accompagnent, en fait, dans presque tout. Oui. L'argent, c'est. Voilà, quand je suis allé vers eux, j'avais besoin et ça m'a aidé beaucoup, mais c'est juste les aides qui
entoure tout
voilà,
ça.
Qui entoure, c'est ça en fait.
Oui. C'est
ça,
pas un accompagnement.
Voilà, c'est l'accompagnement. Jusqu'à maintenant.
C'est un peu d'argent. Parce que, je crois que c'est entre 500 et 10 000 ou 12 000 euros. Évidemment, pour des gens qui ne seraient pas éligibles à un prêt bancaire normal. Mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça parce que c'est un accompagnement dans toutes les démarches aussi. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Voilà. Et que ça c'est une espèce de valorisation de tout cet ensemble-là.
Et ça fait sens. Et le but aussi de l'ADI, c'est de se dire que ces gens qui empruntent peuvent aussi, un jour, devenir créateurs d'emplois et employer, eux, d'autres personnes. Donc, on est dans une espèce de dynamique extraordinairement positive et encourageante.
Mais là, ce dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Marseille avec ce genre de truc fou qui est, finalement, qui est finalement un musée d'objets migrateurs, hein, avec des récits. Et là, je crois que c'est ce que ce qu'on commence à faire avec Générique Vapeur, c'est formidable.
Mais oui, parce que donc il y a évidemment ce microcrédit qui permet de lancer des activités, et c'est l'autre aspect de cette banque culturelle, c'est bien sûr les histoires qu'elle
comment on les communique.
Et comment on les communique. Et donc Générique Vapeur, vous avez travaillé avec certaines des personnes qui ont bénéficié de microcrédit, et vous avez recueilli leurs histoires et celles de leurs objets.
Cathy de Générique est allée à la rencontre de chaque personne pour raconter son histoire, et moi je me suis plus j'ai pris plus de temps avec Alan mécano on va dire carrossier, parce que toujours dans ce souci de trafic d'acteurs et d'engins, et avec Alan j'avais envie toujours dans ce souci de traduire et de s'auto-traduire, on va dire, comment l'artiste peut aussi prendre en compte ce cheminement. Et comment, parce que j'aime beaucoup l'aspect objet nomade, parce qu'on retrouve ça énormément dans notre parcours de vie, parce que c'est souvent des objets qui nous ont servi à des objets du quotidien que l'on a rendu tendre et burlesque grâce à une manière de le théâtraliser ou de le travestir. Et moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec Alan sur ce côté. Je te propose une voiture et sur la banquette arrière, il y a peut-être des histoires. Sur le carnet d'entretien, il y a peut-être des histoires. Sur une fiche technique, il y a peut-être des histoires. Sur une boîte à outils, il y a toujours une histoire. Parce que tu sais, au quotidien, on retrouve ça sur un carnet d'entretien. On trouve ça dans une voiture, mais on trouve ça aussi à travers ce qu'on dit et puis ce qu'on peut rencontrer aussi. On peut aussi trouver une revue technique, et c'est quand même assez formidable comment Alan parle de ça, puisque c'est peut-être pas son souci de théâtraliser, son souci c'est peut-être déjà d'exister et de voilà. Mais nous ensemble, et puis la rencontre aussi avec Daniel et Barbara, c'est aussi de voilà, c'est aussi traduire aussi ce qu'elles essaient de traduire, parce que c'est pas toujours évident de d'être à leur côté, parce qu'elles sont des fois intraduisibles, parce qu'elles ont des mots, elles ont des mots. Moi, je suis fasciné, mais alors s'il faut que je traduise ce que j'ai compris, je suis dans la merde. Donc je fais ça avec mes mots à moi, et souvent je me cache derrière des objets.
Et donc c'est quelque chose qu'on pourra découvrir ce soir à la Friche pour donc cette fête des Maisons de la Sagesse.
Ah oui. Ah ben, y a une proposition en tout cas à travers cet objet qui est un objet roulant, enfin c'est plutôt un voyage immobile, mais oui, c'est une sorte de confessionnal contemporain, dans le sens où les confessionnaux n'existent plus, donc pourquoi pas voilà, une bagnole c'est aussi un confessionnal, c'est là où on fait l'amour, c'est là où on voyage, c'est là où on s'engueule, c'est là où on claque les portes, c'est là où on tombe en panne, c'est là où on fait le coup de la panne, c'est là où on peut manger des sandwichs, c'est là où on peut se mettre des miettes sur les genoux, c'est là où on peut prendre en stop, c'est là où on peut regarder des paysages, c'est là où on peut se fracasser avec une personne à l'extérieur et qui fait qu'on ait des rencontres illicites, voilà, et c'est... puis on peut crever.
C'est beau. Pierre Berthelot, quand vous nous racontez des histoires de voitures. Gany Sissoko, est-ce que vous avez déposé un objet?
Oui, moi j'ai mon objet qui est le fourneau de Brazuro.
Ah, c'est quoi son histoire?
Et son histoire est que j'ai fabriqué, ça arrive dans le même, que j'ai fabriqué, j'ai travaillé avec ça au Mali. Et ici, c'est impossible de cuisiner avec ça. Et moi, en 2013, Marseille, Europe, capitale européenne, 2013, j'étais appelé par Yes We Camp, à la Friche ici, pendant un mois. Et j'avais dit, bon, moi, les projets comme ça, j'aime bien avoir un objet que je me sens bien, que j'ai toujours vu dans ma vie. Et ils sont allés acheter, ils m'ont amené des comme ça de ces mois. Et depuis ça, je voyage avec ça, je l'amène partout, je l'ai installé partout. À la Frise, à la Criée, au Bernardine, et je voyage avec ça, que ce soit en Haïti, au Cap-Vert et partout. À peu près partout, je suis parti.
C'est donc un bras zéro migrateur.
Voilà, il a une histoire pour moi qui...
C'est moins pratique que le porte-clés.
Il y a un exercice, un jeu même en fait, proposé par le Théâtre de la Cité qui sera là tout à l'heure. Et j'ai envie de vous poser la question à vous, Gany. Quel est le mot de la langue française qui vous semble le plus bizarre à vous?
Bon, merde.
Merde.
Oui, ça j'ai...
C'est bizarre, ça vous semble bizarre. Et alors le plus beau?
Le plus beau, évidemment. Et pour moi, évidemment.
Évidemment, c'est beau.
Oui, quand je dis évidemment et trucs comme ça, oui.
Et le mot alors, à l'inverse de votre langue maternelle, qui vous manquerait le plus, qui vous manque le plus?
Et quand je me lève le matin, j'ai envie d'entendre une soroma ou un Nietzsche. Parce que moi, j'ai entendu ça tout le temps, Nietzsche, Nietzsche, et ça me manque beaucoup.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, comme ils ont dit salut ou bonjour, oui. Nietzsche, c'est
ça.
Ou Anis Roma, c'est bonjour. Voilà. Ça, c'est des petits mots qui me manquent beaucoup. Parce que
c'est bonjour qui veut dire vraiment bonne journée ou ça veut dire autre chose?
Parce que si tu Anice, prends... Anice, ouais. En fait, souvent, si c'est des gens plus âgés que toi qui te dis Anice, ils disent qu'ils ne sont pas cultivés pour toi. Ça veut dire que les gens qui travaillent, en fait, quand ils disent Anice, ça veut dire que je ne sais pas, bon travail ou un truc, mais ils vont te répondre tout de suite en blaguant que je n'ai pas travaillé pour toi. Et ça, c'est, voilà, c'est, on ne dit pas avec des gens qui sont plus âgés. Et Anice Roma, ça, c'est bonjour. T'as bien... Anis Roma, ça rentre dans l'état bien dormi, ça veut tout dire en fait, les santé, voilà, ça c'est Anis Roma. Mm-hmm. Bonjour. Mais Anice, ça c'est voilà, souvent il y a des gens qui te disent, je ne sais pas qui tu veux pour toi, voilà. Mais en tout cas c'est bonjour.
Marseille, je marche souvent seul dans tes rues, et trop souvent j'y ai disparu. Marseille, mon cœur si seul cherche ta caresse, car ma vie est trop remplie de tristesse. Marseille, de ta mer de splendeur et de regret, de ton soleil implacable jusqu'au soir tard. Marseille, ta voix ne cesse de m'appeler. Marseille, Marseille, ville d'éternité. Marseille, ouais, tes monuments abondent en nombre, tes mystères au-delà des hommes nous comblent. Marseille, jamais je ne pourrai regretter le jour béni où je t'ai rencontré, ouais. Marseille, de ta mer de splendeur et de regret, de ton soleil implacable jusqu'au soir tard. Marseille, ta voix ne cesse de m'appeler. Marseille, Marseille, ville d'éternité. Oui, d'éternité. Marseille, jamais je ne pourrai t'oublier. Marseille, je marche seul dans tes rues, et trop souvent j'y ai disparu. Marseille. Ouais.
Bon, et puis la troisième strate. Oui, peut-être un peu plus savante ou en tout cas un peu plus dans la recherche. C'est celle qui aborde cette intraduisible des trois monothéismes et qui pose donc la question de la traduction de la parole divine et comment on la partage avec les autres, avec la communauté. Vous en parliez tout à l'heure, vous avez fait donc un gros séminaire à l'Imera hier et aujourd'hui. Comment est-ce que ça se développe? Vous travaillez avec beaucoup de chercheurs. C'est un projet que vous avez commencé déjà depuis un petit moment.
Oui, mais c'est un projet absolument infaisable et en même temps complètement indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on essaye de voir qu'est-ce ce que c'est que la radicalisation dont tout le monde parle, c'est bien quelque chose qui se focalise autour de, le rap, mettons, la Torah, la Bible, le Coran. C'est ce que j'appelle très mal les trois monothéismes, parce qu'il y en a d'autres. Mais enfin, bon, c'est ceux-là qui, avec lesquels on est tout le temps confronté et qui font la Méditerranée, en un sens. Bon. Et là, on réfléchit sur les mots. On prend comme angle d'attaque les mots. Comment est-ce qu'on dit Dieu ? Bon, comment est-ce qu'on dit le livre ? Comment est-ce qu'on dit croire ? Et là, on a travaillé pendant ces deux jours à comment est-ce qu'on dit l'autre ? Comment ça se dit dans ces langues-là, dans ces textes-là ? Et quelles sont les différences ? C'est pour ça que je demandais tout à l'heure à Gany, mais bonjour, là, ce que tu viens de dire, bonjour, c'est, ça veut vraiment dire, est-ce que ça veut dire bonne journée ou est-ce que ça veut dire quelque chose d'autre ? Eh bien, c'est ça la question. C'est quels sont les équivoques, quelles sont les inventions qu'on ne perçoit pas quand on met tout sur le même plan et qui pourtant sont, disons, cruciales pour arriver à ne pas communiquer. Bon, c'est drôle parce que si je peux faire une référence à l'actualité actuelle, il se trouve que le président de la République, Macron, donc, a parlé à la fin de son discours sur l'Europe des intraduisibles, c'est-à-dire comme c'était important de comprendre qu'on ne se comprenait pas, de comprendre que ce n'était pas si simple de se comprendre et qu'il fallait réfléchir à ce qu'on ne comprenait pas. Alors lui, il a pris un exemple. Génial, très utile.
Dit-elle en levant les yeux au ciel.
C'est la dette. Parce que la dette entre la France et l'Allemagne, est-ce que ça veut dire tout à fait la même chose ? Bon, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer de piger qu'on comprenne quand on ne se comprend pas. Voilà. Par exemple, on a travaillé sur le mot « idolâtre ». Bon. Eh bien, c'est un mot atrocement compliqué. Hein. En fait, ça vient de Eidolon, qui veut dire image fantôme, mot grec. Mais ça a été traduit, ça a été réinjecté, par exemple, dans la Bible hébraïque, alors que ça n'existe pas. Et en revanche, il y a des mots qui, par exemple, comme gentil, gentillesse, c'est les peuples, ethné. Ben, vous croyez ça, vous ? Comment est-ce qu'on pige tout ça ? Hein ? Donc c'est autour de ça qu'on travaille, vraiment.
Et c'est passionnant, vraiment, j'aimerais bien être une petite souris et suivre vos échanges.
Mais non, venez en grande souris.
Alors, ces maisons de la sagesse, donc, elles sont en bonne forme, il y a déjà plusieurs temps de travail, donc petit à petit ça se solidifie, ça prend corps. Comment est-ce que vous allez les financer ? J'ai vu sur le net qu'il y avait une campagne de soutien que vous avez lancée sur KissKissBankBank, alors c'est peut-être l'occasion d'en dire un petit mot. Il reste 36 jours au jour d'aujourd'hui, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller contribuer si le sujet vous parle. Il y a un objectif de 4000 euros. Vous en êtes à 10%, 400 euros là, qui ont été
commencer, hein.
Atteints tout à fait. Et est-ce que ça suffit en fait, 4000 euros ?
Non, ça suffit pour qu'on fasse les premières actions au lieu de piquer dans nos porte-monnaies, on va dire. Mais ça ne suffit pas pour qu'on... Évidemment que ça ne suffit pas. Mais ce qu'on fait est tellement important, je crois, tellement sérieux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui entre l'accueil, entre l'insertion et entre, disons, la... Alors, horrible mot, la déradicalisation, un mot épouvantable. Bon, c'est tellement important, c'est tellement topique, c'est tellement nouveau que, bien sûr, les pouvoirs publics vont nous aider. Demain matin.
Ils vont devoir.
Demain matin, après cette émission, évidemment.
Mais est-ce qu'ils sont garants, eux, d'une certaine sagesse ?
Eh bien, on va être garant pour eux.
Okay. Hein.
C'est-à-dire que les pouvoirs publics, oui, on va. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai rencontré à Marseille un préfet à l'égalité des chances. Mais je ne savais même pas que ça existait. Je trouve ça génial que la France fasse des préfets à l'égalité des chances. Il vient de changer, je crois que c'est maintenant une préfète. On va bien sûr aller la voir.
Si elle nous écoute, elle doit être en train de se dire « Attention, l'équipe des Maisons de la Sagesse qui débarque. »
Non, non, ils sont là pour ça. Et je pense quand même que, modestes comme elles sont, Je pense que ce que tu dis, qui sont les garants, en fait, sont les garants de faire appel à des philosophes et des compétences comme ces dames, parce que c'est elles qui amènent cette sagesse-là. Donc, le garant, c'est elles.
Et le fric, c'est pas nous.
Bien sûr, parce que c'est quand même ce qu'il faut, c'est leur donner l'idée que c'est eux qui ont eu l'initiative. Les politiques, c'est ça. Les politiques, c'est en fait des passeurs. Il y a pas de souci, parce qu'ils savent. Et donc, ne soyons pas hypocrites. Ce qu'il faut, nous, comme on n'a pas de temps, il faut qu'ils s'en persuadent et qu'ils aillent demander aux gens compétents de faire le boulot à leur place. Et après, quand le boulot sera fait, de toute manière, c'est eux qui en prendront qui en récolteront les fruits. Et donc là-dessus, c'est pas d'hypocrisie, c'est ce qu'on vit par habitude. Et puis si on est dans la merde, on ira voir l'Adi.
Absolument. Ils vont vous aimer l'Adi, je crois.
Et puis, il est absolument nécessaire de travailler cette question de l'accueil. On le voit à Marseille. Et c'est vrai que ce travail-là est essentiel. La Maison de la Sagesse, comme relais, comme porte-parole, comme lieu où on peut s'exprimer, ça devient de l'essentiel.
Les philosophes publics, on vous retrouve tout à l'heure à la Friche Belle de Mai pour faire la fête de la Maison de la Sagesse. Fait. Qu'est-ce que vous prévoyez, des roues toujours ?
Nous prévoyons des roues de la philosophie qui seront cette fois-ci axées sur les mots, sur le terme de la traduction, sur la sagesse. Et puis, nous avons aussi réservé une petite surprise. Nous avons travaillé sur un idéolo-bingo, donc une façon de repenser les mots que l'on entend et qui sont souvent dépourvus ou en tout cas enlevés de leur sens, et de redonner du sens. Voilà, ça c'est essentiel pour nous dans notre travail.
Et à côté de vous, il va y avoir le théâtre La Cité, le collège Henri Vallon, qui vont réfléchir aux questions que vous venez de poser à Gany tout à l'heure. C'est quel est le mot de votre langue qui vous manque le plus, puisque ce sont des enfants primo-arrivants, hein, comme on dit. Et quel est le mot du français qui vous paraît le plus étrange ? Et ils vont réaliser une simèse du mot qui manque, l'inventer comme ça, comme une performance. Et puis, on travaille aussi énormément avec Ramzi Tadros, ACT, ACT. Enfin, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, ce qu'on n'a peut-être pas dit jusqu'à maintenant, c'est que dans une maison de la sagesse, il y a des confluences. Au fond, c'est une maison des confluences. Des confluences à la fois des compétences, des sciences, des générations, mais aussi des actions déjà existantes.
Et oui, en fait, c'est de très nombreux acteurs culturels et associatifs marseillais qui se retrouvent mêlés de bon gré à ce projet de Maison de la Sagesse. Et c'est très bien comme ça. Gany Sissoko, avant de se quitter, puisque cette émission commence à toucher à sa fin, où est-ce qu'on vous trouve, vous et votre super brasero et surtout votre super restaurant ?
Et je serai là et ce soir.
Et puis dans Marseille, où est-ce qu'on peut venir manger chez vous ?
Je suis sur le 5e boulevard Chavre, 153 sur boulevard Chavre. Les restaurants, ça ouvre dans un mois.
Super. Et il s'appelle comment ?
La Cuisine de Gany. On peut aller les voir sur Facebook.
Super.
La Cuisine de Gany.
Bien.
En tout cas, je suis content d'être là ce soir pour faire goûter ma cuisine et des autres cuisines qui sont là. Hein.
Le plat number one sur la carte de la spécialité du chef, sur la carte de la maison de Gany.
Là, je dirais,
pizza banane.
Là, je dirais pâté aux pommes de terre. C'est auvergnette et ça vient d'Auvergne que j'ai pris là-bas avec une vieille dame et que je continue de le faire.
Un immense merci à vous toutes et vous tous d'être venus faire un tour chez La Grenouille. On se retrouve donc tout à l'heure à l'espace jeunesse de la Friche Belle de Mai de 18h30 à 20h30. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la Maison de la Sagesse ? À part que de la réussite, évidemment, mais sinon...
Encore.
Encore, encore. Merci beaucoup et très bonne journée sur les 3-8.
Merci à vous.
Merci à vous.